Le sexe, pour moi, c'est comme un très très bon repas. Et les mets sont délicieux, fins, raffinés.
Un nuage tout sucré, tout doux, où on part loin, on coupe notre tête, on réfléchit plus. C'est un moment de liberté.
Un bonbon très acidulé.
C'est comme un bon alcool fort. Si ça se passe trop bien à trop faire l'amour, je pense qu'après, on est tellement vanné qu'on peut avoir la gueule de bois.
Aujourd'hui, moi, j'ai conscience de tous mes désirs et je sais que certains peuvent rester de l'ordre du fantasme et d'autres pas. Il y a des pratiques pour lesquelles je n'ai pas spécialement d'envie aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, j'y serai pas ouverte.
J'ai toujours été bien dans mon sexe, toujours. Je suis sûre que je suis d'abord femme. J'aime la femme, j'aime la féminité. Je n'aurais pas du tout aimé être un homme, je ne leur envie rien.
J'aime d'ailleurs même pas le terme d'homosexuel, parce qu'il y a tout de suite le mot sexe. D'abord, c'est quelque chose qu'on choisit pas. C'est d'abord quelque chose qu'on éprouve par rapport à quelqu'un. C'est de l'admiration, c'est de la curiosité, c'est une émotion, c'est une attirance intellectuelle. Et le désir arrive ensuite.
Non, non, aujourd'hui, je suis bien tout le temps. Ça, ça me pose pas de soucis. Je me dis pas ce serait plus facile d'être un homme. Il y a des moments où je me dis ce serait plus facile d'être hétéro. Ça, c'est clair et net.
J'ai de la retenue. J'ai de la retenue dans, ouais, dans les câlins. Quand on fait l'amour, je pourrais être beaucoup plus. Ça va venir. C'est juste le temps que ça se lance tranquillement. Je trouve mes marques. C'est différent d'avec un homme, c'est pas pareil.
Je sais pas si... Même à 80 ans, on a exploré toutes les facettes de la sexualité.
De sexe féminin, de Julia Foyce et Julie Béressy. À l'origine, il y eut le sexe, un sexe, féminin. C'est écrit noir sur blanc sur la carte d'identité. Une lettre, une seule, un F, qui semble fixer, dès les tout premiers jours, le reste d'une vie. Sauf qu'il ne dit rien, en fait, rien du tout, parce qu'il faut le nourrir, ce F, et l'habiter, ce sexe. L'orienter, aussi. Homo ou hétéro? Seul ou à deux? Aimer, désirer, désaimer, déchirer, pleurer, aimer de nouveau, et jouir un peu, au passage? Oui, c'est comme ça qu'il palpite, ce F, qu'il se construit, année après année, rencontre après rencontre. Aline a 34 ans. Études de musicologie, diplôme de peintre en bâtiment, mariée, en pantalon et sans talon. Avec Stéphanie, elles viennent d'avoir deux enfants. Anaïs en aura peut-être, elle en veut. Préparatrice en pharmacie, elle a 25 ans et elle est très amoureuse de Marine, après l'avoir été de Guillaume. Pour Chantal, il n'y en a qu'un, un seul, l'unique, Jacques, son Jacques. À 57 ans, elle aime comme elle respire, aimante, désirante, maternante, elle est assistante maternelle. Alexia, elle, est une sexothérapeute en devenir. À 30 ans, le sexe est sa matière première. Ses partenaires de jeu, son mari et leurs amantes. Et puis il y a Morgane, 38 ans, cadre dans le web marketing, célibataire pour l'instant. Car ça y est, elle est prête, prête à aimer les femmes et se moquer du reste. Ce F, ce sexe féminin, est leur seul point commun. Un point de départ à partir duquel elles ont joué leurs propres notes, une gamme, cinq mélodies. Celle du bonheur, parfois, celle du cœur en tout cas, par un cœur de femme.
Là, on va à la crèche et donc on y va avec Stéphanie, ma femme. J'ai du mal à le dire encore, c'est fou, hein ? C'est pas naturel pour moi. Et ouais, non, c'est un terme, c'est bizarre, c'est ma chérie que je préfère. C'est un énorme tourbillon cette année parce que l'arrivée des petites la fin de l'année dernière, il s'est passé beaucoup de choses, ça évolue super vite. Ça fait déjà 15 ans que je m'imagine avec des enfants, je ne savais pas à l'époque encore comment m'y prendre. Le fait d'être avec une femme, ça complique un petit peu les choses quand même. C'est moins naturel, bizarrement. Sur la fabrication même des enfants. C'était pas du tout fondamental de me marier. Pour moi, c'était ancré que je ne me marierais pas de toute façon, donc ça ne m'a pas effleuré l'esprit. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le fait que le mariage ouvrait le droit à l'adoption et que j'allais pouvoir adopter mes filles, c'est tout.
Quand vous vous définissez, vous dites quoi? Vous dites « je suis peintre en bâtiment » d'abord?
Je pense que c'est mon métier qui viendrait en premier, parce que ça surprend toujours les gens et ça me plaît. Ensuite, le fait d'être la femme de Steph et la maman de Prune et Victoria, ça dépend de mon auditoire. Ça dépend de qui j'ai en face, si j'ai confiance ou pas. parce que les réactions sont des fois surprenantes et j'ai pas forcément envie de m'y frotter tout le temps.
Alors, il faut mettre des glaçons dans le seau et de l'eau. Ah, ben oui, on va prendre l'apéritif en premier. Oui, 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 on va prendre l'apéritif. Et au fait, tu attendais le Père Noël ?
Pourquoi ?
J'ai trouvé tes chaussures de sport sur la chaise.
Oh, ben écoute. J'ai l'habitude de le faire dans le noir.
Alors, je ne sais pas si tu sais où il est. Il faut sortir le seau à champagne qui est dans le l'armoire de l'entrée.
Alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'aime toujours autant. Je dis j'ai l'impression parce que je ne peux pas parler à sa place. Moi, je l'aime toujours comme au premier jour. Je suis avec lui depuis 7 ans. Je suis avec lui depuis 2007, l'année de mes 50 ans. Ce que je ressens avec Jacques, je ne l'ai jamais ressenti avec aucun. Jamais. C'est-à-dire, c'est une impression sécure. C'est l'homme dont je rêvais quand j'étais petite. On a tous un homme dans notre tête, l'espèce de prince charmant. Il n'a pas de cheval blanc, mais c'est un prince charmant. J'ai de la chance d'être tombée sur cet homme-là. C'est vraiment ma moitié.
Alors dites-moi, Anaïs, on est où, ici ?
Bien, ici, on est chez Marine, ma copine, voilà, chez qui j'ai emménagé officiellement depuis hier. C'est tout frais. Ça fait une semaine que je suis là. Et ça fait 3 semaines qu'on se connaît et qu'on décroche plus. On s'est rencontrés un lundi. Et dès le mardi, elle est venue dormir chez ma mère, parce que j'étais chez ma mère. Et depuis, on n'a pas passé une nuit sans être ensemble.
Et vous vous êtes rencontrés comment ?
On s'est rencontrés sur Internet, sur Mythique. Première fille avec qui j'ai discuté, je m'inscris le dimanche, le lundi on discute, le lundi soir on se voit.
Qu'est-ce qui vous a plu chez elle dans sa fiche ?
Le côté simple, le côté relation sérieuse qu'elle recherche, pas un plan cul parce que ça, c'était même pas la peine. J'ai passé 9 ans avec un garçon, donc on avait une maison ensemble, qu'on a encore, hein, qui est achetée, qu'on attend de vendre. Et je l'ai quitté en décembre. Et là, je me suis dit, les mecs, c'est bon, c'est fini. Et ouais, non, j'étais vraiment partie sur rencontrer une fille parce que ça aurait fait partie, je pense, si j'étais restée avec Guillaume, des regrets que j'aurais pu avoir tout au long de ma vie, de pas avoir vécu quelque chose avec une femme. Et donc, du coup, voilà, je me suis inscrite sur des sites. Bon, j'ai rencontré 2-3 filles à droite à gauche. Ça s'est bien passé, mais il n'y a pas eu de suite. Et puis, bah, je suis tombée sur Marine. Et finalement, ça allait très vite.
Mais c'était vraiment toute première fois avec une fille.
Ouais.
Et alors ?
Alors, je suis partie très très loin. J'ai grimpé très haut.
Pour autant, vous étiez attirée depuis longtemps par les filles ?
Depuis toujours. Autant les hommes que les femmes, depuis toute gamine. C'est pas un souvenir, c'est un ressenti. C'est pas la chaleur dans le cœur ou au plexus quand on voit quelqu'un qui nous plaît.
Alors, on est à l'Alba Opera Hotel. C'est un lieu très cosy que j'aime beaucoup pour rencontrer les personnes que j'ai en entretien individuel. On a aussi fait des ateliers ici et du coup... Je trouve que la déco s'y prête vraiment par rapport au sujet et voilà, c'est un chouette lieu. Là, par exemple, on est dans le petit salon avec des couleurs rouge, noir. Ce que j'aime beaucoup, c'est toutes les affiches très anciennes des couvertures de lui. On a aussi des super lampes à moumoute, enfin à plumes plutôt. C'est très chouette. Généralement, alors c'est vrai qu'il n'y a pas trop de termes pour le travail que je fais. Je suis... fondatrice d'une association du cabinet de curiosité féminine où l'on traite des sujets sur les sexualités. Tous les mois, on réunit donc une quinzaine de femmes autour d'un sujet différent. On a fait les orgasmes, le libertinage, on a fait les jeux BDSM, les jeux de bouche. On a fait aussi dans la tête des hommes, voilà, enfin toutes sortes de sujets variés. Disons que par le passé, j'avais une boutique de lingerie, d'accessoires érotiques. J'avais tout un réseau de vendeuses à domicile. Et moi-même, j'ai fait des réunions de vente à domicile. Donc dans la France entière, j'ai dû faire 600 réunions à peu près en 4 ans. Donc je suis vraiment allée dans toutes les villes de France. Et j'ai eu le même constat, c'est qu'il y avait vraiment une misère sexuelle. C'est des réunions où il y avait souvent que des femmes. Et on se rendait compte qu'elles ne connaissaient absolument pas ni leur corps, ni leur propre sexualité. Et on sentait que beaucoup subissaient leur sexualité, n'osaient pas connaître leur corps, enfin apprendre à connaître leur corps, etc. Et ça m'a terrifiée parce que je me suis dit, c'est quand même quelque chose de fondamental d'être épanouie sexuellement. Ça fait partie du bonheur en général. Et avec mon mari, on se disait toujours, mais ça serait chouette, c'est de pouvoir créer des espaces où on parlerait uniquement de sexualité, sans toute la contrainte de la vente à côté, etc. Je pense que déjà, c'est une première approche de la sexualité qui est très importante, c'est le fait de communiquer. quand on parle, c'est beaucoup plus facile pour passer à l'acte après. Et quand j'ai rencontré mon mari, ça a été une explosion de plaisir. Et du coup, c'est avec lui en fait que j'ai tous les souvenirs, les meilleurs souvenirs, parce qu'il y a eu de la folie. Et il y a encore de la folie dans tout ce qu'on fait. Donc on a toutes sortes de fantasmes, des envies. Et d'en parler déjà, ça les nourrit dans un premier temps. Et ensuite, bah, on passe à l'acte ou pas.
J'ai eu beaucoup de barrières à franchir du fait de mon éducation, du fait de la pression sociale, du fait de ce poids religieux, parce qu'à l'époque, dans ma famille, le religieux en général avait une place importante. On a été élevés dans le respect d'un certain nombre de règles du catholicisme. Et quand j'y vais, bah, je suis encore... au sein de la famille, l'éternelle adolescente, qui n'a pas de vie personnelle, encore moins sexuelle, puisqu'on n'en parle pas. J'ai appris très tard ce que voulait dire homosexualité. Quand j'avais 12 ans et que je parlais de mon premier amour, je savais absolument pas ce que c'était que l'homosexualité, j'avais jamais entendu ce mot-là. On parlait pas du tout du corps, ou de sexualité, ou de... ne serait-ce que d'embrasser... autour de moi, enfin dans ma famille, et donc tout ce rapport au corps, il a fallu que je l'apprenne toute seule ou en parlant avec tout simplement quelques amis. Mais c'est vrai que c'était très compliqué. Des fois, je tombais sur des articles de certains magazines que je lisais en cachette. Ça a été un apprentissage qui s'est fait laborieusement. Je pense qu'il m'a fallu beaucoup de temps en réalité pour apprendre à me connaître.
Je me souviens des mois pour des filles, ouais, très très jeunes, vers 7-8 ans. Des filles, des coups de cœur, c'est ma meilleure copine, mais c'était autre chose. Des filles même que je connaissais pas très très bien, mais qui me fascinaient, donc j'avais envie de connaître plus de choses. Ensuite, la première personne dont je suis tombée amoureuse, ça a été un garçon à 14 ans, j'ai eu un coup de foudre en vacances, pas possible. Là aussi, c'était hyper romantique, premier bisou à la plage, dans l'eau, alors j'ai failli lui tomber dessus, il m'a rattrapée, enfin, c'était vraiment... il me fait tourner la tête, quoi. C'était vraiment ça, en fond sonore, vraiment. Mais ça m'est vite passé. Mais les premiers émois, ouais, c'était des filles, déjà.
On parlait de sexualité chez vous,
parents-enfants ? Ah non, on parlait pas du tout sexualité à la maison. Non, ça... j'ai aucun souvenir là-dessus. Je me souviens juste que un repas de famille avec des amis très très proches de mes parents. Il y a eu un moment dans la conversation où ma mère s'est tournée vers moi et elle me dit « Je te préviens, le jour où tu ramènes une fille à la maison, je te fous dehors. » Et moi, j'avais tellement pas conscience. Je savais même pas ce que c'était l'homosexualité à ce moment-là. J'avais pas du tout de mots. Je lui en avais jamais parlé. Je suis même pas sûre qu'elle ait remarqué quoi que ce soit chez moi. Mais je sais pas pourquoi, à ce moment-là, elle m'a sorti cette phrase-là. Et puis, moi, sur le coup, j'ai pas prêté attention. Ça m'est revenu, mais 15 ans plus tard, je me suis dit, mais c'est vrai, merde, ma mère m'avait dit ça quand j'avais 12 ans.
Alors, à la maison, quand j'étais toute petite, on parlait de sexualité sans aucun souci. Y a pas de tabou à la maison. Avec ma mère, mon beau-père... On en parle librement, sans que ce soit vulgaire. Si j'avais des questions, je pouvais leur poser. Aucun sujet tabou, jamais on m'a dit « Non, mais arrête, faut pas parler de ça, ça se fait pas » ou... Jamais. Après, je suis pas très proche de ma mère, donc pour parler, je lui en parlais pas spécialement. Elle est déjà venue plusieurs fois me dire « T'as des questions, tu veux qu'on en parle ?» Je lui disais toujours non. Ma mère, c'est un anti-modèle. Elle est du genre à sortir, s'amuser, et un coup d'un soir, et après rentre à la maison. Moi, pas du tout. Je peux pas, ça. Coucher pour coucher, j'ai jamais fait. Je conçois pas le faire. Ça me ressemble pas du tout.
Chez nous, c'était tabou. Le mot sexe, tout le monde devenait tout rouge. Les règles, toutes les filles ont des règles. Il fallait pas en parler. C'était sale, c'était tabou. Moi, j'ai une grande sœur, donc elle m'en a parlé un peu, un petit peu. C'est surtout avec mes copines. Beaucoup, beaucoup avec mes copines. Et comme j'étais solitaire, beaucoup dans les livres... Ma mère est une femme qui a 85 ans, donc elle a été jeune fille avant la guerre, dans les années 40, et c'était tout à fait une autre époque, tout à fait différente. Déjà, ce qui me fait dire que je suis tout à fait différente d'elle, c'est qu'elle, le couple, c'est pour toujours. On est mariés, voilà, ça va ou ça va pas, on reste avec. Et puis, il y a ce chapeau catholique, mes parents étaient catholiques. Et donc, on est marié devant Dieu, sous-entendu, on ne divorce pas. Donc ça, c'est un abîme avec moi.
À l'école, je n'ai pas eu d'éducation sexuelle. Et mes parents n'étaient pas
pas forcément, pas ouvert, mais c'était pas un sujet qu'on abordait forcément, quoi. C'était pas quelque chose de très naturel, finalement. Je me rappelle rapidement de mon premier baiser. C'était à l'arrache, on pourrait dire. Et du coup, ça a duré quelques secondes, mais je me souviens qu'on est parti chacun de notre côté, comme si on avait fauté, en fait. Et après, j'ai eu beaucoup d'expérience. En fait, je me suis toujours laissée guidée par mes envies, sans avoir de restrictions, parce que je partais du principe que si j'en avais envie, je devais le faire. Ça correspond. En fait, l'instant où j'ai commencé à avoir une poitrine, enfin quand mon corps a commencé vraiment à changer, ça correspondait avec la période où je devenais une jeune fille. Du coup, je l'ai très bien accepté. J'avais de la poitrine, des fesses. Du coup, c'était plus simple d'avoir une sexualité libérée.
J'ai été garçon manqué pendant très très longtemps. À l'âge de 16 ans, je suis arrivée un jour à la maison avec 6 mm de cheveux sur la tête. Ma mère a hurlé, c'était vraiment pas possible. Je m'habillais en jean hyper large, t-shirt mixte, les docks aux pieds. Je suis restée comme ça pendant une petite dizaine d'années. J'étais pas à l'aise dans le fait d'être une fille. En fait, me couper les cheveux, ça a été surtout pour me faire remarquer parce que je passais inaperçue. Donc j'ai coupé les cheveux à l'entrée au lycée. Et là, pour le coup, lycée de 2000 personnes, mais tout le monde savait qui j'étais parce que j'étais la fille aux cheveux courts. Et j'ai eu besoin de ça pour m'affirmer. Ça a correspondu au moment où j'ai accepté que j'étais lesbienne. Et puis, même si j'ai été mal à l'aise avec mon corps pendant un certain temps, je pense que c'est quelque chose d'assez courant pour tous les adolescents, mais ça ne m'est jamais traversé l'esprit de devoir vouloir devenir un garçon, à aucun moment.
Moi, je n'avais pas de succès avec les garçons du tout. J'étais maigre, mal dans ma peau, voûtée, avec des grosses lunettes de myope. J'étais tout le temps seule dans mes livres. Je rentrais en sixième. Pour la première fois de ma vie, je prenais le bus pour aller à l'école. Et quand je suis montée dans le bus, je n'avais pas encore franchi la dernière marche qui fait qu'on arrive dans le bus, que j'ai vu devant moi ce garçon. Et que j'ai senti ce que je n'avais jamais senti. Quelque chose de bizarre dans mon ventre, dans mon cœur, dans ma tête. J'étais amoureuse.
Je tombe des nues, je suis perplexe. Et me voilà dans de beaux draps. Je cède, est-ce la faute de la Bex? Si je suis tombée dans ses bras, elle me plaît.
J'avais 12 ans, ça a été cataclysmique. Je me suis pas du tout rendu compte de ce qui m'arrivait, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et c'est vrai que j'avais 12 ans, et seulement 12 ans après la naissance, les petites années d'enfance, etc., je me suis sentie implosée, explosée dans tous les sens. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et en plus, comme je sentais que c'était un désir qui était un peu différent des autres, de ceux qui m'entouraient, je n'osais pas en parler, évidemment. C'était un désir pour une professeure au collège. La nouvelle rentrée scolaire démarrait. Elle est rentrée pour la première fois dans la classe et je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'était une admiration sans doute excessive. J'étais très impressionnée. J'arrivais pas du tout à maîtriser ce que je ressentais. Donc j'étais perdue. Je prenais ça pour une admiration excessive. Je savais pas ce que c'était que l'amour, en fait.
Vous en avez fait quoi de ce désir-là?
Il est resté sous la forme, au cours de l'adolescence, de quelque chose que j'espérais secrètement concrétiser. Mais il m'a fallu énormément de temps, il m'a fallu des années. Et après, j'ai envie de dire, le passage à l'acte, entre guillemets, est venu tard, beaucoup plus tard.
En fait, je suis tombée amoureuse au moment où j'ai redoublé ma quatrième et j'ai eu un coup de foudre pour ma prof d'anglais à ce moment-là, vraiment. Mais à m'en rendre malade, à arrêter de manger, à dormir très très peu, à tourner en rond quand je la voyais pas. J'étais vraiment pas bien. J'en ai parlé à ma meilleure amie de l'époque qui m'a dit, si tu ressens le besoin de lui en parler... Fais-le, écris un mot, fais quelque chose. Voilà, on ne sait jamais. Donc je l'ai fait, la veille des vacances de Noël. À l'époque, je lui ai écrit une lettre et tout, en lui expliquant que je ne savais pas trop ce qui se passait, mais voilà, il y avait quelque chose quand je la voyais et tout. C'était au-delà du fait qu'elle soit ma prof préférée. Je sais pas, j'avais envie de la connaître mieux. Elle me subluguait, il fallait que je la voie, il fallait que je lui parle tout le temps. Et voilà, je lui ai donné ça la veille des vacances scolaires, ce qui est une grosse connerie, parce que du coup, j'ai passé 2 semaines à me morfondre à la maison, à me demander ce qui était en train de se passer dans sa tête. C'était vraiment horrible. Et puis, à la rentrée en janvier, premier cours d'anglais, elle était hyper froide, elle m'adressait plus la parole, elle était vraiment pas cool, elle avait complètement changé. Et je lui ai demandé si elle avait lu ma lettre et ce qu'elle en avait pensé. Et elle m'envoyait chier, mais comme jamais. J'avais 14 ans, j'étais face à une adulte. Enfin, elle avait à peine 30 ans, elle était super jeune en plus. C'est pour ça que je m'étais permise de le faire. Je me suis dit, bon, elle est jeune, elle peut pas... C'est pas possible qu'elle me renvoie dans mes buts comme ça. Eh ben si, elle l'a fait. Ça a été horrible. Je suis ressortie de là... choquée. Et honteuse.
Le premier jour où je me suis dit, je suis bisexuelle, où il faut poser vraiment un mot dessus, je pense que j'étais au lycée, en seconde. Je m'en suis rendu compte parce qu'effectivement, tous mes rêves érotiques, c'est qu'avec des femmes. Il n'y a jamais d'hommes dans mes rêves. Et quand je me réveille, merde, c'est fini. Avant, je ne me l'acceptais pas réellement parce qu'il faut se conformer à des normes et à des règles. Et que ça faisait un peu de tâche et j'avais peur que ça soit mal vu. Et je me revendiquais hétéro. C'était compliqué parce que toutes les copines au lycée, c'était « Oh, t'as vu lui, il est beau, nani, nana. » Et moi, dans ma tête, c'était « Putain, tu l'as vu, elle ? Sérieux ?»
J'ai pas essayé d'aimer des garçons. En revanche, j'ai voulu savoir ce que c'était, évidemment. Et j'ai embrassé un garçon beaucoup plus tard que mes amis, je crois vers l'âge de 16 ans. Et bon, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, mais j'avais l'impression déjà d'avoir franchi un pas, d'être différente. Il y avait un avant et après. J'avais l'impression qu'il fallait que je passe par ces étapes-là, qu'il fallait que je fasse comme mes amis pour accéder à autre chose. Il fallait que je passe par le masculin, entre guillemets.
Et ce passage par le masculin, ça a donné une première fois, j'imagine, un premier rapport sexuel avec un garçon ?
Beaucoup plus tard. J'avais 20 ans. Tout était assez tardif. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Et j'en garde un souvenir très mitigé. J'avais l'impression qu'en ayant un premier rapport sexuel, ça me ferait rentrer dans l'âge adulte et dans une sexualité plus active, plus libérée. Pour moi, c'était une étape symbolique à passer, donc je l'ai fait. C'était loin d'être extraordinaire, c'était complètement nul, je pense qu'on peut le dire. C'était raté. Ça ressemblait à une version glauque de Beauté volée, le film de Bertolucci, que j'avais vu 2 ou 3 fois. Dans l'idée, j'avais envie de vivre la même chose que l'héroïne. C'est-à-dire la découverte du corps de l'autre, de son corps, dans une sexualité jouissive, naïve, pleine d'intensité, surtout pour la première fois. Et moi, ça a été l'inverse, tout simplement, parce que j'étais pas avec la bonne personne et que j'étais avec un homme que je ne désirais absolument pas.
Et donc, ce garçon, pourquoi lui, à un moment donné ?
Parce que j'étais en vacances, parce que j'étais loin de la maison... C'était en Italie, et que j'avais l'impression qu'une frontière me donnait la possibilité d'enfin pouvoir me lâcher un peu. J'avais besoin de passer une frontière, je pense, pour passer ce cap-là. J'avais besoin de mettre des kilomètres entre toute la pression en fait, que j'avais et le fait de pouvoir me libérer et puis symboliquement de devenir une femme. Il y a eu un avant et un après, clairement. Not hear what you're saying. Could I tell you so?
C'était en vacances, alors à 15 ans, j'en faisais beaucoup plus. Donc j'avais joué un petit peu sur ça pour séduire en fait, enfin, un homme beaucoup plus âgé que moi, beaucoup plus âgé, il avait 20 ans, mais voilà, j'en avais 14. Donc du coup, il y a quand même une sacrée différence. Et c'était quelqu'un voilà, qui était extrêmement à l'écoute, très gentil. Et du coup, je trouvais que tout était très naturel. Et il me semble que c'était très doux. C'était une jolie expérience.
La toute première expérience que vous ayez eue avec une femme, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors justement, c'est très drôle parce que du coup, cette première expérience était assez brutale, en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte que les femmes aussi, entre elles... peuvent être brutales dans leur rapport sexuel. C'est pas pour ça que c'était déplaisant, hein, loin de là. Mais elle était active, donc c'est elle qui donnait du plaisir, mais elle ne voulait absolument pas qu'on lui donne du plaisir. Et j'ai trouvé ça tellement frustrant que du coup, c'était pas forcément une très bonne expérience.
Alors, la première fois avec une femme, en fait, je dirais que j'ai eu deux premières fois parce que la toute première fois, c'était avec une fille que j'avais rencontrée au lycée, qui avait débarqué en milieu d'année. Et je crois qu'elle est un peu tombée amoureuse de moi aussi, mais elle est hétéro, cette fille. Donc, elle est, je sais pas, elle a eu une histoire avec moi. Je sais pas si c'est par curiosité ou parce que vraiment je la touchais et qu'elle est vraiment tombée amoureuse de moi, j'en sais rien. Mais du coup, on a eu une jolie première fois parce que c'était tout doux. C'était un peu l'image que les hétéros ont de deux filles qui font l'amour. C'était plein de bisous et de caresses dans les cheveux. Et puis voilà, c'était limite, ça s'arrêtait là, quoi. Ma vraie première fois, faire l'amour en tant que lesbienne, vraiment, ça a été plus tard à Paris quand j'ai rencontré ma première vraie histoire d'amour. Et que là, je savais qu'en face de moi, c'était en plus quelqu'un qui avait 10 ans de plus que moi, donc qui avait l'expérience, tout ça, et j'étais complètement paniquée. À ce moment-là, j'ai fait abstraction de tout ce qui se passait dans ma tête et il fallait que je pense à autre chose. J'ai fait la liste de courses dans ma tête. Merde, il manque du pain à la maison. Parce que j'étais en panique totale, je savais pas quoi faire et je me suis laissée porter complètement. J'étais pas à l'aise du tout. Ça s'est arrangé par la suite, hein, je vous rassure, mais à ce moment-là, c'était la première fois, c'était ça, la panique totale, quoi.
Guillaume, c'était mon premier. On a fait l'amour pour nos 6 mois. Du coup, j'avais 16 ans. Souvenir lamentable. J'ai eu terriblement mal et je me suis pris un putain de fou rire. Bon, après, on a remis ça et ça s'est bien passé. Hein. Avec Guillaume, on a eu de gros problèmes de communication. Au niveau sexualité aussi, et c'était pas drôle. Hein.
Qu'est-ce qui passait pas avec Guillaume ?
La discussion, tout simplement. On pouvait pas parler. Sexualité, ça le dérangeait énormément. Mais pas par pudeur, parce qu'avec ses copains, il en parlait.
Et malgré tout, vous avez eu du plaisir avec lui ?
Bien sûr. Oui, oui. Mais parce que je me connais bien aussi et que c'était pas. Tout le mérite ne lui revient pas. Je m'occupais de moi pendant qu'on faisait l'amour parce que sinon c'était mort. Hein.
J'ai eu la chance de tomber sur le bon mec. Il m'aimait, je l'aimais. On était très jeunes, j'avais 18 ans, lui 23. On était vraiment très très jeunes. On était encore à l'école. J'étais peut-être la seule nénette avec un cartable dans le dos mariée. Alors c'est avec lui que j'ai fait l'amour la première fois. J'avais jamais eu de plaisir avant et j'en ai pas eu tout de suite avec lui. Le plaisir, il est venu beaucoup plus tard, moi, toute seule. Et le déclic, ça a été cette fille avec qui j'ai fait l'amour une fois, qui m'a fait découvrir mon corps. J'ai découvert qu'on pouvait avoir du plaisir sans pénétration. J'ai découvert qu'on peut avoir du plaisir clitoridien. C'est une super découverte. Cette fille, je la vois plus, je sais plus où elle est. J'aimerais que ce soit toujours mon amie, pas mon amante, mon amie. Et je ne regrette rien, mais j'ai jamais eu d'autres envies. Et après, avec mon mari, à chaque fois, j'avais du plaisir. Parce que je lui ai montré.
Vous avez fini par vous séparer ?
Je suis restée 11 ans avec mon mari. Et on a divorcé en très bons termes. J'avais plus ce piment à la maison. Je m'emmerdais ferme dans mon couple. On faisait plus l'amour parce que je sais pas quoi. Parce qu'un jour, ça me nuise. Parce qu'il n'y a plus de désir. Parce que... Voilà, quoi. Donc, et un jour... Il rentrait du travail, j'étais à la maison, j'ai entendu sa voiture dans l'allée et je me suis dit, déjà. Et là, je me suis dit, bon, j'arrête. Et on a arrêté.
C'est très compliqué parce que vous sentez que c'est quelque chose que vous avez à cacher, qui n'est pas quelque chose de pleinement accepté autour de vous. Vous ne savez pas comment ça va être pris en face. Donc vous commencez à la jeune adolescence, à partir de la jeune adolescence, à vivre avec un secret. C'est un secret un peu mal formaté, puisque ce secret que vous gardez, vous savez pas si vous allez arriver à le concrétiser. Vous savez pas si c'est possible dans la société. Vous n'avez pas de repères, vous n'avez pas de films qui en parlent, etc. Enfin, il y a rien, il y a aucun support. Donc vous nouez des relations avec des gens, et tout d'un coup leur dire, d'une minute à l'autre, « il se pourrait bien que je préfère les femmes », ça fait peur, parce qu'on a peur de la réaction en face, on a peur de perdre ses amis. Donc c'est très difficile à dire, et puis ça touche à l'intime, ça touche au corps, ça touche au désir, ça touche à la sexualité. Toutes ces choses dont j'avais du mal à assumer, dont j'avais du mal à parler, et qui m'ont pris des années. Et il y a eu un moment où tout ce que je conservais depuis des années est remonté. Et puis j'ai commencé à en parler à quelques amis. Et un soir, j'ai franchi le pas et j'avais un copain qui avait repéré une boîte gay. Et un soir, il m'y a conduite et il m'a laissée devant l'entrée et je suis rentrée. Et là, ça a été une libération. En fait, rien que l'atmosphère, ça a été comme si je me retrouvais chez moi, entre guillemets. J'ai dû commander un verre et puis on est venu me parler très rapidement. Et je me suis retrouvée avec un petit cercle de gens avec qui j'ai discuté, fait la fête. Il s'est rien passé concrètement ce soir-là, mais j'avais l'impression qu'un poids entier était parti de mes épaules. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais l'impression qu'une nouvelle vie démarrait.
Et alors, votre première fois avec une femme, c'était quand ?
Ah, ça a été assez rapidement. Disons que quand le processus a été enclenché, après, c'est allé assez rapidement. Et donc, la première fois, ça a été extraordinaire. Je savais que j'étais à la bonne place. J'ai découvert le plaisir, tout simplement. Ça a été encore plus intense que tout ce que j'avais pu imaginer. Parce que c'était physique, c'était émotionnel, c'était... Il y avait toutes les dimensions. Je crois n'avoir pas dormi pendant 48 heures. Là, on touche plus terre. On est fébrile, on oublie de manger, on oublie de respirer. On est entièrement tourné vers l'autre. On a l'impression que la personne en face est la réponse à tout ce qu'on attendait depuis des années. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, je me suis totalement oubliée. Il n'y avait plus qu'elle qui comptait.
L'histoire d'amour qui a suivi, alors là, j'en ai le vertige tellement c'était bon, j'en ai le vertige tellement c'était cruel, j'en ai le vertige tellement c'était fort. J'ai rencontré un homme et je suis tombée amoureuse de lui dans l'instant, mais amoureuse comme, c'est pas le mot amant, c'est le mot aimant, on était aimantés. Dès le premier instant, on n'a pas pu se séparer, on ne pouvait pas se décoller. Donc ça a commencé par faire l'amour comme des bêtes, tout de suite, comme des mammifères, vraiment, c'est fou. Et très fort, avec un plaisir décuplé, et ça a duré 4 ans. On ne pouvait pas se croiser sans s'embrasser avec fougue, on ne pouvait pas se frôler sans se jeter l'un sur l'autre, on s'aimait fort, on s'aimait charnellement, c'était la passion, voilà ce qu'on appelle la passion. Avec mon mari, il y avait ce plaisir que je lui ai fait découvrir, comment moi je pouvais accéder au plaisir. Il a été bon élève, donc ça se passait très bien. Mais je crois qu'avec mon mari, on a dû faire 2 positions, peut-être 3. Qu'avec le père de ma fille, puisque ça a aussi été le père de ma fille, lui, c'était débridé. C'était partout, n'importe où, c'était dans tous les sens. Il m'a guidée, il m'a ouvert à plein de choses. J'étais très bonne élève, j'étais très heureuse, j'étais très épanouie, j'étais très gourmande de tout. Donc, et il m'a amenée vers autre chose, alors ça, j'aurais pas cru, vers les fameux clubs échangistes. Sachant que nous, on n'a jamais échangé, on ne s'est jamais mélangé. Il m'a dit, c'est puissance 10 d'être là, dans cette ambiance-là, au milieu de ces gens-là. D'abord, personne ne va te regarder ni te draguer. Il y a un énorme respect. Et c'est vrai que d'être au milieu de ces gens qui font l'amour librement devant tout le monde, nous on s'est juste embrassé, on s'est juste peut-être caressé un peu plus qu'on ne l'aurait fait dans une boîte normale, sans plus. Mais arrivé à la maison, c'était décuplé, le je me jette sur toi, tu te jettes sur moi, et ça dure des jours et des jours, c'est juste excellent.
Alors pourquoi ça s'est terminé avec lui ?
Alors ça s'est terminé parce que c'est un garçon qui était très attiré par les femmes. C'était vraiment l'homme à femme. Il vient un moment où c'est insupportable, même s'il ne se passe rien après, même s'il vous dit qu'avec vous, vous êtes la seule et l'unique avec qui il est fidèle, c'est insupportable. Et il savait que pour me garder, la seule chose, c'était me faire un enfant, me demander un enfant. Donc, il a eu cette demande-là, j'ai envie d'un enfant avec toi. Et c'est quand j'ai été enceinte de 4 mois qu'il m'a dit qu'il souhaitait pas poursuivre. Dès qu'on a commencé un soir à faire l'amour et qu'il a senti que mon ventre était rond, dur, et que ça bougeait dedans, ça l'a gêné. Aussitôt, son érection est tombée. Et aussitôt, il m'a dit, là, je peux plus. On s'est plus adressé la parole, on se croisait. J'ai vécu une grossesse de 4 mois à 6 mois épouvantable. Sachant que quand tu te tapes un chagrin d'amour enceinte, t'as pas droit à un calmant, ni à une clope, ni à un verre. C'était extrêmement dur. Je ne sais pas comment j'ai surmonté ça. Il s'est barré le 17 mai et j'ai accouché le 24 juin.
Beaucoup d'hommes, malheureusement, pensent que à partir du moment où il y a eu un échange de caresses, ça veut dire qu'on est d'accord pour le reste. Même en disant non, il y a un moment où ils ne tiennent pas compte de cette réponse.
Donc c'est un traumatisme derrière, c'est sûr. Et moi, je sais que ça a été des moments où, par la suite, j'avais plus du tout envie de rapports sexuels. C'est peut-être souvent à ces moments-là, d'ailleurs, où je me tournais plus vers les femmes. Et le consentement mutuel à un moment qui n'est pas réel, on peut aussi le considérer comme un abus, finalement. Mais un vrai abus sexuel, comme je l'entends, avec pénétration, etc., un viol, concrètement... Ça s'est arrivé juste quelques mois avant la rencontre de mon mari. Et c'est un événement que j'ai enfoui dans ma mémoire, en fait, pendant 5 ans. Comme s'il n'était pas arrivé. C'était une défense inconsciente pour pouvoir survivre à ça. J'avais confiance en lui, en cette personne, en fait. J'avais vraiment confiance en lui et... C'était un ami d'un ami, mais c'était devenu un de mes amis. Pourtant, ne lui montrant aucun signe que je pouvais avoir envie de lui, mais il a certainement mal jaugé, en fait, ce que je lui donnais comme amitié, finalement. Forcément, c'est pas du tout... On a une vision, après, souvent des hommes, qui est pas très reluisante. C'est très compliqué, ensuite, d'être en accord avec soi-même, parce que on s'est mis dans cette situation et on se sent coupable. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là qui a poussé cet homme à faire ça, en fait ?
Quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré quelqu'un qui a beaucoup compté. Et là, j'ai eu une vraie relation de couple, pendant quasiment 2 ans. On était très complices, et ça a été une autre phase. Ça a été la phase où j'ai commencé à le dire autour de moi, notamment à ma famille. Je l'ai appris à ma famille à cette époque-là. C'est à ma mère que je l'ai dit au téléphone. J'aurais sans doute voulu le dire dans d'autres circonstances, l'exprimer différemment. Et je le lui ai dit au téléphone. Je lui ai dit que j'étais avec une femme. Alors, il y a eu un long silence. Ma petite fille, tu te prépares un chemin marginal et extrêmement solitaire. Et ça m'a marquée. C'est une phrase qui m'a poursuivie. Mon ami de l'époque trouvait étrange et trouvait frustrant que je m'attache autant à l'avis de mes parents. Elle comprenait pas pourquoi j'attendais leur approbation. Et moi, ça me bloquait. Ça me bloquait parce que j'avais l'impression de... Je savais que ce que je vivais était sain, était joyeux, était naturel pour moi. Et était enfin l'aboutissement d'un long parcours. Mais j'avais l'impression d'avoir... transgresser tellement de choses et de vivre dans un tel interdit par rapport à tout ce dans quoi j'avais baigné que c'était un véritable déchirement intérieur. Et ça m'a poursuivi pendant des années. J'étais bloquée. C'est-à-dire qu'en dehors de mon ami et du petit cercle qu'on fréquentait, j'osais absolument pas en parler. J'avais une sorte de double vie. Il y avait la Morgane dans la vie sociale, professionnelle, et puis... Et la Morgane vis-à-vis de ses amis et des sorties.
C'était la période où je venais de rencontrer Stéphanie, qui est sourde. Et donc dans la voiture, je mettais très très fort le son pour que toute la voiture tremble au bruit des basses et batteries, pour qu'elle sente les vibrations, tout ça. Et en même temps, je lui chantais et je lui traduisais les paroles en langue des signes. Et ça la faisait mourir de rire. Donc on l'a écoutée en boucle pendant des jours et des semaines. Et du coup, c'est un peu notre chanson. Peut-être pas cette fois. J'ai rencontré Stéphanie il y a 5 ans, presque et demi maintenant, lors d'un week-end, une fête de quelqu'un que je connaissais pas, à laquelle j'étais pas censée me pointer. Et puis il y a eu un moment où effectivement il y avait un petit peu de monde, homo, hétéro, plein de gens différents, c'était vachement sympa. Et puis j'ai vu débarquer Stéphanie, que j'ai trouvée d'abord très jolie. Je n'ai pas osé aller lui dire bonjour, je l'ai observée un petit peu et puis j'ai vu qu'elle était déjà avec quelqu'un. Et puis, je les ai vus parler en langue des signes. Et moi, ça m'a subjuguée parce que ça faisait déjà 10 ans que je me disais, mais c'est quelque chose que je trouve tellement joli de pouvoir s'exprimer avec ses mains et tout. Donc, j'ai pas arrêté de les regarder. Et elle a bien chopé un moment que je la fixais. Ça pouvait pas être autrement. J'étais tellement peu discrète à ce moment-là. Donc, elle a commencé à me regarder aussi, un petit peu de travers, tout ça. Puis finalement, l'alcool aidant, c'est devenu un petit jeu de se regarder, de jeter des petits coups d'œil en coin. J'ai bien compris qu'en fait, je la trouvais jolie, mais ça avait l'air d'être réciproque. Donc, et puis, on s'est échangé nos numéros, l'air de rien, avec la complicité d'un de nos amis. Et moi, je suis repartie le dimanche soir à 22h, et, toute tremblante en refaisant la route Montpellier-Toulouse. J'arrivais plus à respirer parce que je ne voulais pas partir, je voulais rester là. J'étais vraiment pas bien, j'avais peur de ne pas la revoir. Je me rendais bien compte à ce moment-là que c'était une rencontre importante. Et c'est sur Perpignan, en fait, qu'on s'est embrassé la première fois et qu'après, on s'est revus vachement plus régulièrement.
Alors Jacques, il est arrivé dans ma vie par hasard. Hein. Il est arrivé dans ma vie au moment où je m'y attendais le moins. J'y croyais plus, je l'attendais plus, je ne cherchais pas d'ailleurs. Ça a été du pur hasard. Et j'ai trouvé qu'il avait un regard autre. Il a été différent. Il m'a regardé dans les yeux, pas dans les seins, pas dans les fesses. Il a regardé ce que j'étais, moi, toute seule, à me démerder, à me battre dans ma vie de merde avec ma petite fille. Et il a voulu chercher à comprendre ça, m'apporter du réconfort. Je rêvais de lui dans ma tête. J'étais plus là. Même pour ma fille, moi, la mère maternante, machin, j'étais plus rien. J'étais devenue Madame Jacques. Voilà. J'avais que lui dans ma tête, dans mon cœur, dans mon ventre. Je pensais qu'à ça. Raide dingue amoureuse. J'avais 50 ans, j'avais pas de temps à perdre. Et surtout, j'étais vraiment aimée, enfin. Pour ce que je suis, telle que je suis. Et ça, c'était tellement précieux que je voulais le garder. Voilà, et aujourd'hui, donc on a poursuivi, hein, on s'est aimé. Avec des hauts et des bas, parce que moi, je suis une femme entière, autoritaire, excessive, étourdie, capricieuse. Et comme on a du respect pour l'autre, on essaie de travailler sur soi. J'ai essayé. Et surtout, le couple, c'est quelque chose qui se travaille. Moi, je suis plutôt à l'aise, débridée, à l'aise avec ma sexualité, à l'aise avec le sexe, à l'aise avec l'amour physique. Et je crois que cette façon que j'ai d'être débridée, à l'aise, l'a coincée. Et en plus, le fait qu'on soit ensemble depuis longtemps, le couple s'essouffle un peu, au niveau sexuel, je veux dire. Il a moins de désirs qu'avant, et j'en souffre beaucoup.
Vous, par contre, vous avez toujours autant de désirs pour lui ?
Ah, moi, j'ai toujours autant de désirs pour lui. Je rêve qu'il me fasse l'amour tous les jours. Ça devient obsessionnel, je pense plus qu'à ça. En plus, je comprends pas. Il me dit que je suis la plus belle, la mieux foutue, que tout ce que je mets me va bien, et après, rien. Donc, je comprends pas. Si moi, j'aime pas mon corps parce que je lui reproche de vieillir et de s'affaisser, et que j'en suis plus maître, malgré le sport, le régime, il continue sa dégringolade insupportable. Jacques n'a de cesse de me répéter que je suis la plus belle femme. Pour moi, c'est très difficile. Je suis sûre qu'il n'est pas conscient qu'il me fait vivre quelque chose d'aussi difficile. Parce que lui, quand on s'est rencontrés, ce qui m'a émue, c'est qu'il m'a dit « tu es ma principale préoccupation ». Dans ma vie, ma principale préoccupation, c'est toi. Donc s'il se rendait compte à quel point il me fait souffrir, il s'en voudrait, il essaierait de réparer. Je l'aime très très fort, cet homme-là. Il m'émeut, il me fait monter les larmes aux yeux d'amour tout le temps. Tout est beau autour de cet homme-là, autour de notre couple. Tout est beau.
Alors à ce moment-là, j'étais en couple avec Guillaume depuis un peu plus de 9 ans. Ça n'allait pas depuis un moment. Il n'y avait plus d'affection, il n'y avait plus de tendresse, il n'y avait plus de discussion. On était plus des colocs et encore à s'engueuler pour rien qu'un couple. Et je suis partie.
Aujourd'hui, donc, vous êtes avec Marine. Vous vous êtes trouvée, vous diriez, vous-même ?
Ouais, concrètement, oui. Dès que je suis avec Marine, il faut tout le temps que je la touche, que j'ai un contact avec elle. Et pas plus tard qu'hier soir, je m'excusais de la coller tout le temps parce que je crois qu'elle se lavait les mains et je venais me mettre contre elle derrière. Et je me suis dit, putain, excuse-moi, je te colle tout le temps, mais j'arrive pas à me décoller. Il me faudrait un échantillon de peau que j'ai toujours sur moi pour le sniffer.
Est-ce que vous dites, je suis bisexuelle ?
Oui. Je dis, je suis bisexuelle, même si là, actuellement, je me reverrai pas me remettre en couple avec un homme. Parce que Marine, elle m'apporte trop, là, c'est pas possible. Il se peut que dans quelques temps, ma vision change et que ce soit plus de la bisexualité, mais de l'homosexualité. Ça, c'est pas improbable.
Quand on rencontre la bonne personne, on change d'avis. Je voulais pas d'enfant, à la base. Je ne voulais pas d'enfant avant de rencontrer mon mari. Je voulais pas non plus me marier, d'ailleurs. Et je crois que c'est vraiment la personne qui fait qu'on change d'avis.
Vous êtes donc mariée. Donc vous êtes avec un homme depuis 6 ans. Est-ce que vous auriez pu vivre en couple avec une femme ?
Très honnêtement, non. Parce que j'ai un besoin de sécurité que je ne trouve pas, en fait, lorsque je suis en couple avec une femme. Là, je me sens protégée. Disons qu'avec un homme, au quotidien, la relation est beaucoup plus simple. Je me souviens d'un moment où j'ai eu des relations un peu plus longues avec des femmes, où elles me posaient 20 000 questions dans la journée, par texto, alors qu'on est au boulot. Genre, est-ce que tu m'aimes? Mais au moins 15 fois, quoi. Et c'était juste horrible. Je me sentais plutôt oppressée et surveillée aussi avec les femmes. Ce qui n'est pas le cas, en fait, avec mon mari.
Vous êtes un couple fidèle?
Oui, totalement. On a eu des expériences avec d'autres femmes, par exemple, ensemble. Mais c'est pas de l'infidélité. J'aurais jamais imaginé, en fait, partager ce genre de moment avec la personne avec qui on vit. Parce que je pense qu'on aurait pu avoir des retours assez dramatiques. Or là, pour moi, c'est une expérience qui nécessitait qu'un couple soit très fort. Parce que c'est pas anodin d'avoir ce genre d'expérience avec une autre femme et son mari. Souvent, ce sont des moments parce qu'on l'a rencontré dans un événement, un lieu, une soirée, voilà. C'est toujours moi qui repère, en fait. Enfin, repère, ça fait un petit peu... J'aime pas beaucoup ce mot, mais c'est toujours moi qui vois cette femme-là qui me plaît. Et du coup, je dis toujours à mon mari, elle est vraiment très jolie. Qu'en penses-tu? Ensuite, voilà, c'est lui qui me dit, oui, elle me plaît. Et de toute façon... C'est le moment qu'on passe ensemble qui est important. Donc, au-delà du physique, c'est la personne en elle-même. Est-ce qu'elle va dégager? Elle va nous plaire à nous tous les deux.
Et l'inverse ne s'est pas produit? C'est-à-dire que lui rencontre une femme qui lui plaise et qu'il vous propose de terminer la soirée à trois?
Il ne me propose jamais. Non, parce que pour lui, c'est à moi de proposer ce genre de choses parce qu'il a peur que... Si c'est lui, que ce soit quelque chose dont je me sente obligée. Et du coup, il préfère pas du tout proposer. Il préfère que ça vienne tout seul parce que je l'ai décidé moi.
Vous avez aujourd'hui une sexualité... Vous diriez quoi d'ailleurs? Vous diriez qu'elle est joyeuse? Vous diriez qu'elle est...
Elle est libérée, elle est joyeuse, elle est libertaire, libératrice aussi. Quand on est épanoui sexuellement... On apprécie la vie, on est heureux, simplement.
J'étais très très amoureuse et je me suis fait plaquer, bon, assez brutalement, très brutalement. J'avais 30 ans et j'ai perdu pied et j'ai pas su comment m'en remettre. Je comprenais pas pourquoi on me quittait alors qu'il me semblait que j'avais trouvé la bonne personne. Donc ça a été terrible. J'en suis tombée malade. J'ai fait une dépression qui a duré quelques mois. Et puis, bêtement, je me suis juré que j'aurais plus de relations sexuelles avant d'avoir rencontré la bonne personne. La femme qui vraiment me correspondra. Parce que pour moi, se donner, ça n'est pas rien. C'était un pari que je me lançais. J'avais connu des choses tellement fortes que les aventures, etc., ça m'intéressait plus. Et puis, c'est très étrange, mais il me semble, maintenant avec le recul, que je me suis fait récupérer par une sorte de pression sociale autour de moi. C'est-à-dire que ça a commencé par un doute, je me suis demandé si j'étais réellement homosexuelle, puisque il me semblait que c'était compliqué de vivre quelque chose d'heureux avec quelqu'un. Donc je me suis demandé si j'avais finalement choisi la bonne direction. Et ensuite... Le temps, finalement, de soigner mon chagrin, les mois ont passé, les années ont passé, et puis j'ai envie de dire que plus on s'isole, plus il est difficile d'en sortir.
Comment est-ce que le désir de faire des rencontres, etc., est revenu?
C'est revenu par petites vagues. C'est pas revenu d'un coup. Un peu comme le printemps qui revient chaque année. C'est sorte d'effluves. En fait, la vie a commencé à recirculer.
Aujourd'hui, par rapport à tout ça, vous en êtes où?
Je suis célibataire. J'ai toujours autant envie de vivre quelque chose de fort. Je suis encore en devenir, comme tout le monde. Il y a des jours où je doute, parce que je suis quelqu'un qui doute beaucoup. On n'est pas assuré dans la vie de trouver l'amour. Mais depuis que je recommence à faire des rencontres... On parle, hein. C'est un sujet quasiment inévitable entre nous, on parle de la façon dont on est perçu, dont on le perçoit, si les autres autour sont au courant, etc. Et je me rends compte qu'il y a encore énormément de tabous, de honte, de non-dits. C'est une calamité dans la population homosexuelle féminine. Il y a vraiment encore des tabous qui sont très importants. Moi, je les ressens. Et donc, moi, à mon niveau, j'ai l'impression d'avoir passé un certain nombre de caps. J'ai quand même énormément travaillé sur moi. Là, j'ai envie de quelqu'un qui vive ça joyeusement et qui, au contraire, ait envie de faire bouger les choses. Parce que moi, j'ai envie de les faire bouger, les choses. Je crois beaucoup à la formule de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Alors, sur l'arrivée à la mairie, il y a des photos assez rigolotes. Celle-là, j'aime bien. J'ai une super anecdote, j'en suis super fière. Avec mon bustier, mon maquillage, ma coiffure, ma maman ne m'a pas reconnue devant la mairie. Et je suis, mais ravie. Parce qu'elle m'a vue de dos et qu'à mon père, elle a dit « Oh là là, la fille là-bas en bustier, j'aurais adoré un jour être capable de porter ce genre de choses comme la fille là-bas. » Mon père l'a regardée et a dit « Mais c'est ta fille. » Par rapport à mon histoire avec ma maman, c'est une belle revanche. Parce que c'est vrai qu'on a eu des moments très très compliqués. Le jour où on leur a annoncé qu'on allait se marier, je crois que mes parents étaient un peu sceptiques. Et pas hyper ravi, parce que il me semble que ma maman s'attendait à avoir une gay pride bis le jour du mariage. Elle pensait que ça allait être pleine d'homos et pleine de lesbiennes dans tous les coins, habillées, on sait, ou peut-être pas habillées du tout d'ailleurs, je sais pas ce à quoi elle s'attendait. Et le jour du mariage, je crois qu'ils ont été très très soulagés et par la suite agréablement surpris. Parce que mes copines, elles sont super chouettes, on s'est éclatées, on a eu un super moment, et eux aussi.
Vous avez deux petites filles aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur transmettre sur le fait d'être une femme ?
J'aimerais qu'elles arrivent à s'assumer, qu'elles soient bien dans leur peau. J'aimerais surtout leur transmettre une ouverture d'esprit, et ça, j'ai plutôt confiance en leur histoire à elles, parce qu'elles commencent tout de suite avec deux mamans. Et du coup, très très vite, elles vont se rendre compte que les histoires d'amour, elles vont en faire ce qu'elles veulent.
C'était De sexe féminin. Avec Aline, Anaïs, Chantal, Alexia, Morgane. Merci à elles toutes pour leur confiance. Prise de son. Yann Frécy, mixage Jean-Michel Bernaud. Attaché de production Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination Irène Omelianenko. De sexe féminin, un documentaire de Julia Foyce réalisé par Julie Béressi pour Sur les Docs.